France Culture.
Soir, Quentin l'a fait.
Pourquoi l'écologie, bien que largement soutenue par les Français, reste-t-elle souvent reléguée au second plan des priorités politiques? Est-ce un désintérêt des élus, un problème de solution mal adapté aux réalités sociales? Et que peut l'anthropologie pour faire face à la crise climatique, pour imaginer des mondes nouveaux? Un invité, je le disais ce soir, pour nous éclairer, Philippe Descola, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, médaille d'or du CNRS, professeur émérite au Collège de France, et vous venez de publier cet ouvrage passionnant intitulé « Politique au pluriel du faire monde » qui est paru le 3 octobre dernier aux éditions du Seuil. Bienvenue dans Questions du soir. Et je le disais, Philippe Descola, en introduction de cette discussion, l'actualité du climat, l'actualité, j'allais dire même environnementale, c'est qu'elle est quasi absente aujourd'hui des grands titres de presse, des discussions dans les médias. Comment l'expliquer alors que l'urgence, elle, demeure si vive?
C'est une bonne question. Elle disparaît progressivement, elle s'efface, elle a été très présente il y a encore quelques années, et progressivement, année après année, mois après mois, des questions absolument fondamentales pour la survie de l'humanité s'effacent de la conscience publique. Je pense que il y a peut-être un effet de lassitude du public qui en a marre qu'on lui ressasse un avenir bouché, ce qui est assez compréhensible, le désir d'échapper au fond aux catastrophes annoncées. En général, les Cassandres, comme on le sait par l'histoire de l'Antiquité, sont assez maltraités. Et donc tous les porteurs de mauvaises nouvelles sont mal accueillis. Je pense que aussi, c'est une question qui a disparu progressivement de l'agenda politique, tant en France qu'en Europe et surtout aux États-Unis, et où donc les hommes politiques n'ont pas eu le courage de continuer ce combat. Et de cette façon-là, n'ont pas eu le courage de continuer à mobiliser nos concitoyens sur ces questions. Et pourtant, les mauvaises nouvelles ne cessent de s'accumuler. À la fois les nouvelles chiffrées sur le développement de l'accroissement des gaz à effet de serre, sur le réchauffement climatique, sur la baisse de la biodiversité, etc. Mais il y a aussi le fait que, sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire lorsque on est concerné par l'un de ces méga-feux qui ont surgi dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, l'été dernier, on sent à peine, au fond, dans la vie quotidienne, les effets du réchauffement climatique. Il fait effectivement un peu plus chaud l'été, un peu moins froid l'hiver. Ce qu'on ne voit pas, c'est par exemple les taux extrêmement élevés de pollution par des polluants éternels que l'on commence à mesurer maintenant et qui sont un problème de santé publique absolument dramatique. Ce qu'on ne voit pas, c'est la hausse insidieuse des taux de cancer, y compris des taux de cancer pédiatriques dans les régions où on se sert intensivement de pesticides. Ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce développement à bas bruit, en quelque sorte, de la détérioration des conditions environnementales qui affecte la vie de chacun au quotidien.
Vous évoquiez, Philippe Descola, le manque de courage des responsables politiques. Et dans le même temps, est-ce qu'il n'y a pas une singularité, une spécificité des politiques publiques en matière environnementale? C'est qu'elles sont très très peu rétributives pour ces responsables politiques. Leurs effets positifs ou du moins neutres se feront ressentir dans plusieurs décennies, si bien qu'il est compliqué, j'allais dire, d'assumer, au bon sens du terme, dans le temps, une politique en matière environnementale. Alors justement, comment conjurer cet effet-là, celui du court terme et du long terme?
Oui, il y a bien c'est un problème en effet que important que vous souligniez. Les hommes politiques sont soumis à une chronologie du très court terme, et prendre des mesures dont les effets ne seront visibles qu'à très long terme n'est pas rentable pour eux. Je pense qu'il y a quelque chose de peut-être plus grave, si on peut dire, que cela. C'est le fait que, au fond, si l'on veut développer des mesures qui luttent contre la dévastation écologique du monde, il est évident qu'on doit se confronter immédiatement au système qui l'a rendu possible. Et donc, je pense que beaucoup d'hommes politiques et de grands entrepreneurs sont conscients de cela, mais que pour des raisons évidentes, ils ne souhaitent pas le faire, parce que ça voudrait dire renverser la table, et que dans leur... au fond, la perspective qu'ils ont les uns et les autres n'est pas de renverser la table, mais de maintenir avec des bouts de ficelle le système actuel. Et pour cela, il faut une politique absolument visionnaire. Il faudrait une révolution aussi importante que l'a été le Conseil national de la Résistance, par exemple, qui propose des mesures inédites dans la... Sans penser à des révolutions comme la Révolution française ou la Révolution bolchévique, mais des mesures inédites de protection de nos concitoyens, et à une échelle qui en plus ne peut pas être une échelle nationale, ni même une échelle exclusivement européenne, mais à une échelle mondiale. Et donc il y a très peu d'hommes politiques qui ont le courage de faire face à cet Himalaya.
Je voudrais vous faire entendre une voix, celle d'un intellectuel français, Pierre Charbonnier. Il était l'invité des Matins de France Culture le 23 septembre dernier. Il évoque la difficulté à dessiner et à faire émerger ce qu'il appelle une coalition climat. On y reviendra.
Il faut avoir un rapport profondément réaliste à l'enjeu climatique. Réaliste, ça veut dire sur la question sociale. Trouvons le groupe pivot majoritaire ou la coalition climat. Composons cette coalition climat. Alignons à cette composition sociologique un agenda politique qui désigne des objectifs et des ennemis. La même question se pose à l'échelle internationale. Il faut compter nos ennemis, compter nos amis. Il me semble que la relation entre l'Union européenne et les grands émergents, et on a parlé du Brésil, mais on pourrait parler aussi d'autres pays latino-américains, de beaucoup de pays africains, de pays d'Asie du Sud, c'est l'axe fondamental de la stratégie internationale de décarbonation. En comprenant bien, et c'est là que le réalisme revient, que décarboner, il faut vraiment faire résonner le mot, ça veut dire que j'adresse à toute entité qui vit des fossiles un message qui est en quelque sorte un message agressif. Je vais faire quelque chose qui ne va pas te plaire. Hein. On dit aux États-Unis, on dit à la Russie, ce qu'on va faire, ça va mettre en jeu votre modèle économique, votre modèle politique.
Comment est-ce que vous réagissez, Philippe Descola, à ces propos de Pierre Charbonnier, et notamment sur ce diagnostic qu'il pose? Évident, il y a une difficulté monstre à faire émerger aujourd'hui une coalition climat, c'est-à-dire à réunir les bonnes volontés dans ce domaine.
Oui, je connais bien Pierre Charbonnier, nous avons fait un livre ensemble, un livre de dialogue, et je le connais depuis longtemps. Je trouve qu'il a de plus en plus une position que j'appellerais réformiste, et qui tient peut-être au fait que...
C'est une critique ?
Disons que c'est pour souligner certaines divergences que je peux avoir avec lui. Je pense que la coalition climat a un côté un peu irénique. Je vois mal comment on peut la mettre sur pied. Si on imagine au fond les grands moments de coalition internationale, ça s'est passé après la dernière guerre, donc après un ébranlement majeur qui a abouti à la création de l'ONU, comme la Première Guerre mondiale avait abouti à la création de la SDN.
La Société des Nations.
C'est passé aussi par le tribunal de Nuremberg, c'est passé par toute une série d'événements qui ont complètement bouleversé la donne. Je vois rien de semblable maintenant qui permettrait de mettre sur pied une coalition climat de ce type-là. Je peine à croire que les conversations raisonnables entre gens raisonnables peuvent aboutir à un changement.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut, baisser les bras dans ce domaine, s'empêcher même de réunir les personnes qui seraient prêtes objectivement à travailler ensemble alors qu'elles ne le font pas aujourd'hui pourtant ?
Alors, je suis pas jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que je pense que la situation est suffisamment grave pour que toutes les tentatives pour essayer de, sinon d'y mettre fin, en tout cas, d'atténuer les effets, notamment du réchauffement climatique, sont utiles. Et donc la voie réformiste, c'est une voie que je ne condamne pas. Simplement, je suis un peu douteux de ces résultats. Moi, je pense plutôt, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre que vous évoquiez tout à l'heure, que des expériences qui sont menées dans différentes régions du monde ont un effet d'entraînement et surtout de stimulation intellectuelle et politique qui peut aboutir à des transformations profondes. L'exemple de la Révolution française me vient toujours à l'esprit. Pendant un siècle, des intellectuels et des clercs ont formé des clubs et des choses comme ça, et ont brassé des idées qui ont finalement abouti à la surprise générale de toute l'Europe et de l'aristocratie et du roi et sa famille en France, mais aussi de toute l'Europe, à ce grand bouleversement qui a été la Révolution française. Mais ça a été préparé pendant très longtemps par des idées. Et donc je pense que les idées font avancer les choses. Et c'est ce à quoi j'essaye de contribuer.
Alors venons-en justement aux idées et à ce livre que vous signez aux éditions du Seuil. Et commençons par le début, si je puis dire, c'est-à-dire par des éléments de définition. Qu'est-ce que l'écologie ? On va entendre des Français. Les premiers s'expriment en 1985, les autres s'expriment aujourd'hui. Et ils nous donnent leur propre définition de ce qu'est selon eux l'écologie, justement.
Est-ce que c'est pour vous l'écologie ?
Mais moi, c'est respecter la nature. N'est-ce pas, c'est disons on rencontre des papiers, des boîtes et toutes sortes quand vous êtes dans un endroit, alors ça fait pas très joli.
Qu'est-ce que l'écologie?
L'avenir.
L'écologie, c'est une soi-disant science de la nature et des études tout ce qui touche la terre et l'environnement.
C'est le fait de préparer une planète acceptable pour nos enfants.
Bon, je ne me sens pas très concerné par ça.
L'écologie, c'est se soucier de la planète qui nous entoure et notre vie future. Et je pense que ça devrait être une valeur un peu importante pour tout le monde, parce que la planète, c'est ce qui nous fait vivre.
Écoutez, j'y connais rien, moi. C'est la protection de la nature, si vous voulez.
L'écologie, je pense que c'est pas une histoire ni de parti politique, ni de... C'est du savoir, du bon sens au quotidien.
Elles vous ont fait sourire, ces définitions, Philippe Descola. Est-ce qu'elles vont assez loin, selon vous? Pour vous, ce que vous écrivez justement dans cet ouvrage, c'est qu'il y a quelque chose d'ontologique dans l'écologie. Ce n'est pas simplement une bonne relation au climat, aux arbres et à la nature.
Alors, il faut revenir un peu en arrière. Au XVIIe siècle, s'est produite une révolution anthropologique fondamentale qui est l'apparition d'une façon de composer des mondes, de faire monde, que j'ai appelé le naturalisme, et qui mettait en opposition, d'une part, des humains avec des capacités cognitives et morales exceptionnelles, et d'autre part, les autres qu'humains, qu'on appelait déjà la nature, mais dans un sens un peu différent, qu'on a systématiquement appelé la nature à partir de ce moment-là, une séparation qui a rendu possible des choses positives, comme le développement des sciences de la nature, justement, la physique, la chimie, etc. Et aussi des choses négatives, c'est-à-dire le fait de traiter les autres qu'humains comme des choses, c'est-à-dire comme des ressources. Et ça tranchait sur une cosmologie qui a été au fond dominante jusqu'à la Renaissance, qui voyait le monde comme composé d'un très grand nombre d'éléments hiérarchisés selon une échelle de l'être, ou une échelle de la nature, comme on l'a aussi nommé par moments, à l'intérieur duquel il y avait sans doute des distinctions, mais il n'y avait pas de position de bloc à bloc. Et donc, avec l'émergence du naturalisme, se met en place une séparation conceptuelle entre les humains et les autres qu'humains, qui devient bientôt une séparation institutionnelle, c'est-à-dire le développement du droit, le développement de la philosophie politique sépare de plus en plus la gestion des autres qu'humains par le droit de propriété, par des choses comme ça, et la gestion des humains par les libertés civiles, le droit de la personne, codifié ensuite par la philosophie des Lumières. Et cette situation, qui est tout à fait exceptionnelle au regard de l'histoire de l'humanité, c'est ce que les anthropologues et les historiens montrent bien, perdure depuis lors. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, depuis les premières alertes des écologistes, si je puis dire, depuis le rapport du Club de Rome, depuis les livres d'Ellul ou de Gors.
C'est un demi-siècle, ça, même, pratiquement.
Ça fait presque un demi-siècle, oui. C'est que tout d'un coup, la conscience de cette séparation et des dégâts qu'elle peut faire est devenue manifeste. Mais on ne sait pas très bien comment s'en dépatouiller, c'est ça le problème. C'est qu'on est installé dans cette grande séparation, dans ce grand partage, et on ne sait pas comment en sortir. Et comment en sortir, si ce n'est en prenant des mesures, qui sont toujours des demi-mesures, de protection. Mais en protégeant la nature, on continue à la considérer comme quelque chose d'extérieur à nous. Soit on protège des espaces réservés, qui sont des parcs naturels, soit on s'efforce de prévenir des pollutions ou des transformations dangereuses, en quelque sorte, de nos environnements. Le fait même de parler d'environnement continue à être anthropocentrique. L'environnement, c'est ce qui environne les humains. Et donc, adopter une perspective qui ne soit plus anthropocentrique ou anthropocentrée, mais biocentrique, fondée sur la vie ou écocentrique, fondée sur les écosystèmes, demande une révolution intellectuelle complexe.
Est-ce que ce ne serait pas la première étape, par exemple, avant même d'ambitionner de changer les choses, de changer les mots ? Il y a un terme qui fait son propre succès en ce moment, c'est celui de vivant. On parle de politique du vivant pour évoquer justement le continuum, la continuité entre les humains et les non-humains, pour établir un lien justement entre l'espèce humaine et le reste des éléments qui nous environnent. Est-ce que ce terme-là peut permettre, selon vous, de faire avancer les choses ?
Alors, je crains d'être un peu responsable de l'engouement pour ce terme du vivant, parce que depuis des années, justement, j'insiste sur le fait que de parler de nature pose un problème, que la nature...
La distinction nature-culture n'est pas pertinente.
La distinction nature-culture n'a rien d'universel et qu'elle est caractéristique de notre propre civilisation. Et progressivement, les gens ont eu quelques méfiances, ont employé ce terme de nature avec précaution, et il a été progressivement remplacé par le terme de vivant. Le problème, c'est que le vivant, ça n'est qu'un des éléments, au fond, d'un ensemble d'éléments dont certains... Alors, vu d'un point de vue naturaliste, hein, parce que dans des contextes extra-modernes, tout est vivant. Un fleuve est vivant, une montagne est vivante, etc. Mais d'un point de vue naturaliste, le vivant n'est que la manifestation dans un certain milieu de certaines propriétés qui sont rendues possibles par d'autres caractéristiques biophysiques du milieu. Et donc le vivant ne désigne pas tout. Alors ou bien on prend une conception englobante du vivant, et à ce moment-là, on fait comme les populations amazoniennes que j'ai fréquentées, et on considère que tout est vivant, ou bien on maintient cette restriction, et à ce moment-là, le vivant n'est qu'un élément parmi d'autres. Lorsque des populations autochtones de la région de Cusco font des manifestations pour protéger un pic, qui est une montagne, qui est un apu en quichua, c'est-à-dire un ancien, une divinité importante. Cette montagne, elle est vivante pour eux, elle n'est pas vivante pour nous, mais elle est absolument centrale pour eux parce que elle est un élément du collectif, avec des lamas, avec des champs de pommes de terre, avec des rivières, des lacs, etc., des sources. Et ce collectif, ce macro-collectif, en quelque sorte, composé de très nombreux éléments, seuls les humains peuvent faire valoir sa valeur et le défendre contre les attaques, en l'occurrence des projets miniers, auxquels cet élément est soumis. Donc, je ne pense pas que si j'ai insisté pour qu'on emploie le mot nature avec précaution, c'est parce que dès qu'on parle de nature, on charrie.
On se distingue.
On porte avec ce terme cette séparation entre nature et culture, nature et société. Le vivant, c'est un peu mieux, mais c'est pas la solution non plus complète. La solution consiste à imaginer d'autres formes de cosmopolitique, c'est-à-dire de politique du cosmos, qui soient à la fois des façons des façons d'accommoder humains et autres qu'humains dans des dispositifs unitaires. Tel que, et si ces choses-là m'intéressent, c'est que en tant qu'anthropologue, je connais bien de nombreux dispositifs cosmopolitiques qui ont été inventés au fil des siècles et qui, pour certains d'entre eux, subsistent encore à la périphérie du monde moderne et qui opère ce type d'accommodement de façon fort efficace.
Alors justement, Philippe Descola, ce qui frappe lorsqu'on lit « Politique du fer monde » qui a paru au Seuil le 3 octobre dernier, c'est la certitude, la conviction que vous avez, vous l'écrivez même, vous le revendiquez, que l'anthropologie peut permettre d'avoir une action sur le monde, que l'anthropologie peut permettre de changer les choses, de penser, de dessiner, d'imaginer des altermondes. De quelle façon l'anthropologie est-elle un outil si efficace pour faire face justement au changement climatique ?
L'anthropologie nous sort d'une myopie du présent. Ce que François Hartog appelait le présentisme, c'est-à-dire l'idée qu'on est englué dans un présent sans fin, que rien ne va changer parce que on ne peut pas distinguer au fond les prémices d'un futur différent, c'est quelque chose qui est complètement paralysant. Ce que fait l'anthropologie et l'histoire aussi d'ailleurs, c'est de présenter des façons alternatives de vivre la condition humaine, qui ne sont pas transposables telles quelles, bien sûr. Le mode de vie des Atchouars de l'Amazonie équatorienne que j'ai partagé pendant quelques années n'est pas transposable avenue du président Kennedy. Mais les différentes formes de... surtout maintenant, je vais revenir là-dessus, d'interactions entre humains et autres qu'humains qui ont été développées au fil du temps par des collectifs extramodernes, constituent une stimulation intellectuelle remarquable pour essayer d'imaginer des futurs différents. Et je pense que la situation est intéressante maintenant parce que ces collectifs sont confrontés maintenant, j'évoquais tout à l'heure les manifestations des autochtones dans la région de Cusco, on pourrait multiplier le monde et traverser par des conflits de ce type-là dans lequel des populations autochtones essayent de résister à la voracité notamment de l'industrie extractive mais aussi des grandes plantations en inventant des façons de se présenter et des façons d'adapter leurs institutions au monde moderne. Et ça, c'est très intéressant. Je peux vous donner un exemple très rapide. Il y a quelques années, une communauté de l'Amazonie équatorienne, Sarayaku, était venue à la COP21 pour demander la reconnaissance de son territoire. Et ce qu'elle réclamait, c'était une reconnaissance fondée sur la reconnaissance que ce territoire était le support de relations matérielles et spirituelles très singulières entre humains et humains et autres qu'humains. Et donc, ce dont elle demandait la protection, c'était la protection d'une relation qui devenait ainsi un sujet politique. Et donc, transférer l'idée de sujet politique qui, depuis que la philosophie politique des Lumières a installé, au fond, l'individu humain comme pivot, comme l'objet de la vie politique, c'est une révolution conceptuelle considérable. C'est-à-dire essayer de penser que des relations peuvent être des sujets politiques et que ces relations, il faut bien sûr les exprimer d'une façon ou d'une autre dans la vie collective et dans la vie politique. On peut trouver des moyens pour le faire. C'est une révolution conceptuelle qui nous est proposée par des populations autochtones confrontées précisément à des menaces de spoliation.
sur les pouvoirs donc de l'anthropologie, ce qu'elle permet dans l'action. Merci beaucoup Philippe Descola. On recommande la lecture de cet ouvrage intitulé « Politique au pluriel du faire monde » qui a paru le 3 octobre dernier aux éditions du Seuil. Merci d'être venu dans Questions du soir. Merci également à celles et ceux qui ont fait cette émission. Rodi Eken, Bertie Bourdon, Roxane Poulain. À la réalisation, c'était Léa Racine. Et merci et à demain.